Tu ne convoiteras point. Ce dixième commandement. Vous savez, ce dernier commandement n'est pas le moindre en importance, certainement pas. Il est comme une espèce de résumé de la deuxième tablette de la loi mosaïque qui, si vous vous rappelez, se concentre sur la relation entre les hommes. Qu'est-ce que devrait avoir l'air sur Terre, une relation saine entre les hommes de la création de Dieu? Évidemment, comme on a déjà discuté, ça relate toujours à notre relation avec Dieu en premier, mais la deuxième tablette de la loi est clairement dédiée aux relations humaines. Pourtant, le 10 commandement nous parle de façon très personnelle, très individuelle. Un langage qui n'est pas nécessairement aussi présent dans le restant des commandements. Vous savez, la convoitise affecte tout homme, et comme on l'a souvent vu au cours des derniers enseignements, c'est elle qui est à la source de bien d'autres péchés qui nous sont dits dans les 10 commandements. Donc la convoitise peut être dite à la source du vol, à la source de l'adultère, etc. Donc la convoitise est le début de quelque chose, ce qu'on va voir ce matin. C'est ici l'obéissance à une attitude de cœur. Donc, une attitude de cœur qui est requis. Contrairement aux autres commandements de la deuxième tablette, qui se concentrent comme plus sur les relations humaines, ce commandement se centre sur l'obéissance interne. Pas seulement ça, là. Mais, premièrement, elle semble centrer le cœur de l'homme. En fait, Dieu nous certifie, entre autres, en utilisant ce dernier commandement, que la vraie loi est celle qui est non seulement pratiquée, mais celle qui est crue et vécue profondément dans le cœur de l'homme. Donc, ce n'est pas assez de juste faire les 10 commandements. Il faut les vivre, les croire. Il faut qu'ils nous représentent l'obéissance que l'on donne à Dieu. Donc, l'observation de cette loi est donc autant par nos cœurs que par nos actions. C'est ce que l'on va voir un petit peu plus en profondeur ce matin. Donc, je ne vous ai pas dit, mais j'imagine que vous êtes rendu habitué. On est dans Exode 20. Les passages des 10 commandements sont quand même relativement courts. Donc, des fois, j'ai oublié de vous dire c'est quel verset, mais on est à verset 17. Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et si on va dans la deuxième réitération de la loi mosaïque, dans Deutéronome, on voit que l'ordre est un petit peu différent, mais essentiellement, c'est la même chose. La simple description du dictionnaire nous dit que la convoitise est un désir immodéré de posséder. Donc, un désir qui n'est pas modéré de posséder. Ça, c'est une version très générale. John McCain, lui, décrit la convoitise comme un désir consumant de posséder d'une mauvaise manière quelque chose qui appartient à autrui. Donc, un désir consumant de posséder d'une mauvaise manière quelque chose qui appartient à autrui. Pour sa part, le puritain Thomas Watson, que j'aime bien citer tout le temps, décrit la convoitise comme suit. Un désir insatiable de posséder le monde. Et j'aime beaucoup cette description. Les puritains ne vivaient pas dans la même époque que nous, donc des fois, ils ont une petite saveur qu'on ne retrouve pas chez certains commentateurs, mais un désir insatiable de posséder le monde. Puis par l'expression « le monde », évidemment, on en comprend que M. Watson veut décrire les possessions que le monde a à nous offrir, les tentations que le monde a à nous offrir, ou que le monde offre. En fait, une traduction plus littérale du texte original donnerait quelque chose plus similaire à « tu ne désireras point la maison de ton voisin ». Donc, il y a un aspect de désir convoité. Le mot « convoité » traduit plus à sa source, donne l'idée d'un désir, d'une volonté profonde. J'ai trouvé ça intéressant quand je regardais Calvin, lui explique quatre étapes du désir ou de la convoitise, si on veut. Quand un homme est tenté par des désirs immoraux, premièrement, la première étape, c'est qu'il la nourrit. Il nourrit ce désir-là dans son cœur. Puis deuxième étape, c'est qu'il abandonne sa propre volonté à cette convoitise, à ses désirs. Ensuite, il planifie pour satisfaire son désir, et finalement, il met en action son plan pour satisfaire ce désir. C'est pas nécessairement utile et absolu comme étape, mais c'était comme une façon que Calvin schématisait un petit peu le processus de la convoitise, puis je trouvais que ça faisait du sens. C'est vrai que quand on pense à comment ça commence dans nos cœurs, des fois des désirs, on désire quelque chose d'une façon mauvaise, on commence à nourrir une pensée, ensuite on abandonne notre poignée sur la sainteté, sur d'autres attributs divins, puis on décide de finalement planifier et faire l'action. J.I. Douma, pour sa part, nous met en garde de séparer, lui, trop rapidement le désir du cœur de l'action. Ce que Calvin faisait plus facilement. Comme il le démontre, lui, par plusieurs passages de la parole, puis là, je ne ferai pas tout l'exercice avec vous, mais comme il le démontre par plusieurs passages de la parole, le désir est souvent synonyme de l'action. Donc, le désir de convoiter dans la parole de Dieu, la volonté d'avoir quelque chose est souvent synonyme de déjà convoiter ou de déjà avoir fait l'action. Donc, quand David avait convoité Bathsheba, il a fait l'action. Les deux sont pas facilement dissociables. Donc, bien que on peut faire une espèce de dissociation entre les pensées, le processus, puis l'action réelle, souvent, on sait très bien que dans la vraie vie, tout ça se passe très rapidement. Et la convoitise est souvent suivie de l'action. Donc, il faut faire attention de pas trop séparer comme s'il existait une espèce de grand gap, de grand gouffre entre nos désirs charnels de convoitise, puis les actions mauvaises qui les suivent. C'est-à-dire que le cœur qui convoite ou qui désire certaines choses planifie déjà satisfaire cette convoitise et bien souvent l'accomplit rapidement. Je crois que personnellement, qu'en pratique, probablement les deux personnes, Calvin et Douma, ont raison, ont une partie de la vérité. Certains désirs sont comme Calvin les décrit, donc sont nourris plus longtemps, sont réfléchis, puis on passe par l'action tout de suite parce que c'est des choses qui... l'adultère peut être un exemple. Souvent, c'est nourri, c'est planifié, puis bon, finalement, on décide d'abandonner notre âme à ça, puis on commet l'action. Donc, certains autres péchés sont beaucoup plus rapides. On voit quelque chose, on n'est plus capable de dire non, on veut notre bébelle, puis on tombe dans une convoitise. Évidemment, c'est pas tout. Pas quand on achète une bébelle, c'est pas nécessairement de la convoitise, on va le voir plus tard, mais je crois que il y a un juste milieu entre ces deux-là. Il y a une parcelle de vérité dans chacun de leurs approches. Il faut savoir ce qu'il faut en comprendre, je crois, comme dans la définition de la convoitise, de ce qu'est la convoitise, c'est qu'elle trouve la racine dans le cœur de l'homme. Donc les deux, Calvin et Douma et Thomas Watson, bien que leur définition de la convoitise soit un petit peu différente, avec différentes couleurs, différentes saveurs, tous reconnaissent que le point de départ de la convoitise, c'est le cœur de l'homme. Eh bien, évidemment, il le voit et par la pratique et par la parole de Dieu. C'est bon. Oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un plan de la prédication dans le feuillet, pour ceux qui veulent suivre. Donc, on rentre dans une section que j'ai appelée les désirs du cœur. Donc, on pourrait facilement dire que la convoitise a un rapport avec les désirs, comme on vient de le décrire, la volonté, ce que le cœur veut. Et la première sous-section que j'ai mis là-dedans, c'est les désirs qui nous enflamment. C'est-à-dire les désirs qui nous poussent à la convoitise. Comme on va le voir plus tard, dans le deuxième point qui va suivre, ce ne sont pas tous les désirs qui sont nécessairement mauvais. Il y a par contre de ces désirs qui enflamment notre cœur et qui nous poussent notre chair à la convoitise, poussent nos membres à la convoitise. Jacques 4 étant probablement le passage sur le sujet le plus clair, on peut tourner dans Jacques 4, ça vaut la peine, vers la fin du Nouveau Testament, ben, pas complètement la fin, mais bon. Jacques 4, versets 1 à 3. Jacques 4, versets 1 à 3, qui nous dit « D'où viennent les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne pouvez pas, et vous ne possédez pas, excusez, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Donc, Jacques nous éclaire grandement sur la raison, la racine même de nos multiples luttes. Et soyons francs, qui ici n'a pas de multiples luttes dans sa chair? Je pense qu'on peut tous dire qu'on a des difficultés, on a des luttes quotidiennes. Je suis certain que je ne suis pas le seul croyant à lutter avec ma chair. En fait, je suis convaincu que je ne suis pas le seul. À lutter avec des passions qui ne sont pas toujours saines. Certaines passions sont saines, d'autres ne le sont pas. Il nous dit que c'est les passions, un autre mot en fait qui pourrait décrire un désir ardent ou un désir fort quand on est passionné pour quelque chose, des passions qui combattent en nos membres. Une expression qui illustre bien ce qui se passe dans notre cœur quand on convoite. Vous savez, il y a cette mauvaise théologie dans le monde évangélique qui nous dit qu'on a deux natures. On a la chair qui combat la nature de l'esprit. Je vous ai fait un beau petit dessin dans le plan. Je suis très visuel, donc là je me disais, je veux vraiment qu'ils comprennent ce que j'essaie de dire, donc je vais le dire avec des mots et il y a la petite image pour ceux qui sont visuels comme moi. En réalité, la parole nous dit que la chair est appelée à être crucifiée avec ses désirs, en parenthèse, convoitise, et nous sommes une nouvelle créature. Il n'y a donc pas deux natures qui combattent l'un avec l'autre. Il y a une nature régénérée. Galates 5, 24 nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Jean Calvin décrit la chose comme suit. « La chair n'est pas encore pleinement détruite, mais elle n'a aucun droit d'exercer une autorité sur nous. Elle doit se soumettre à l'esprit. » Donc, la façon, la meilleure d'expliquer ça n'est pas de faire l'espèce de séparation. D'un côté, il y a la chair, d'un côté, il y a l'esprit. Ça, j'ai mis un X là-dessus. C'est pas la bonne façon de voir le combat qui se passe. En fait, c'est comme les résidus de la chair qui vont rester jusqu'à notre mort physique, parce que on est dans un corps de mort, comme l'expression de la Bible l'emploie. Jusqu'à notre sanctification finale, jusqu'à ce que Dieu nous donne un nouveau corps, il va avoir ces résidus de la chair en nous, qui vont nous pousser au péché. Mais nous avons quand même une nouvelle nature qui, au paradis, est déjà sanctifié pleinement par Jésus-Christ et qui, sur terre, est sanctifié progressivement par l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Donc, ce corps porte en lui la mémoire du péché, de la chair corrompue. Et c'est ce qui nous pousse à avoir des luttes. Donc, l'autre petit dessin que j'ai mis, c'est comme un bonhomme avec une nature, une chair, mais avec des petits spots. Des petits spots qui restent. Et ces petits spots-là, on les passe à la brosse d'acier. Ça fait mal, mais il y en a de moins en moins plus qu'on vieillit. C'est l'idée du moins. Vous riez, mais c'est vraiment l'idée. C'est ce que le Seigneur désire pour nous. Exactement. Donc, on doit rejeter l'idée que nous avons une espèce de double nature. Donc, Dieu n'est pas, on n'est pas schizophrène, on n'a pas deux natures, une spirituelle puis une charnelle qui combattent, puis là, celle qu'on nourrit va gagner. Non. En fait, on doit rejeter cette conception puisqu'elle n'est pas biblique, premièrement. C'est pas comme ça que la Bible décrit le combat. Puis qu'elle sous-entend aussi que Dieu ment quand il affirme qu'il fait de nous une nouvelle créature. Donc, est-ce que Dieu est menteur? Est-ce qu'on est une nouvelle créature ou pas? 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, elle sous-entend aussi cette conception que c'est un combat entre deux forces égales. Il y a comme une conception qu'il y a la chair, il y a l'esprit, deux forces égales, celle qu'on nourrit le plus va grossir, va gagner. Mais c'est une mauvaise conception. Parce qu'au contraire, la Bible nous dit qu'on a déjà la victoire. Parce que quand Dieu nous sauve, nous donne son esprit, nous donne un nouvel esprit, on est une nouvelle créature, on a la victoire par le sang de Jésus-Christ. Ce qui reste, c'est juste des résidus. Et ultimement, la victoire est déjà acquise. Donc, il y a un combat dans nos vies réelles. Mais le combat spirituel n'est pas à savoir si la chair va gagner ou si l'esprit va gagner. L'esprit va toujours gagner, si vous êtes croyant. Et je parle en termes futurs et ultimes, là, pas nécessairement en termes terrestres. Parce qu'en termes terrestres, des fois, on faillit, on pêche. Parce que nous sommes encore dans cette chair, dans ce corps physique corrompu. Donc, Jacques nous demande d'où viennent les luttes. Bonne question. Ils nous viennent, et il répond à sa question, il dit, ils nous viennent d'un cœur plein de convoitise. C'est pas comme ça qu'il phrase, mais c'est ce que ça veut dire. Parce que quand l'on regarde et on désire ce que l'on n'a pas, et que l'on demande des choses qui ne s'accordent pas avec la volonté de Dieu, on convoite. À ce point, vous pourriez me demander, « Mais Michael, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? » Très bonne question. Question sur laquelle on pourrait faire sûrement plusieurs messages en soi. Je pense que je vais l'échapper à chaque fois. Heureusement, c'est une bouteille. Puis, je répondrai à cette question avec la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5, qui nous dit, ce que Dieu veut, ça commence bien, hein? C'est quoi la volonté de Dieu? Ce que Dieu veut. Bon départ, c'est votre sanctification. Et là, ce qui suit, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc la sainteté, c'est le désir de Dieu pour nous. Ce qui vient après est une espèce de définition pratique de ce que la sainteté inclut, incorpore. Vous savez, c'est fou comme à notre époque, les églises chrétiennes, surtout en Amérique, complexifient la vie chrétienne à un point tel où on en oublie même l'essence de ce que c'est d'être chrétien. D'être chrétien, c'est d'être en Christ, c'est d'être saint. Ce n'est pas d'avoir des églises de grand nombre, de faire des miracles publiquement, d'être des activistes pour des causes sociales, d'avoir des cafés chrétiens, des pubs chrétiens / églises. C'est d'être saint. C'est aussi simple que ça. Vous savez bien que ces choses ne soient pas nécessairement péchés en soi, les choses que j'ai énumérées, ils n'ont aucune vraie valeur sans la recherche d'une sainteté sincère. simplement de rechercher la sainteté. Et je vous demanderai ce matin, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une église qui a une dizaine de programmes complexes pour vous amener à quelque part, 5 pasteurs spécialisés dans leur domaine, d'une scène de spectacle avec des musiciens professionnels, d'un bâtiment à 5 millions? Peut-être qu'on a oublié ce que c'était la volonté initiale de Dieu. Peut-être qu'on aime mieux notre version de la volonté, de notre volonté, de notre façon de faire que celle de Dieu. Peut-être que c'est pas assez glorieux pour nous de vivre dans la simplicité d'être saint. Vous savez, une des choses qui m'attriste le plus, c'est l'état de l'Église moderne aujourd'hui. De voir des gens qui organisent l'Église comme on organise un souper cocktail me dérange beaucoup. De voir des pasteurs devenir des amuseurs de foule et les lieux de culte devenir des théâtres de divertissement, c'est réellement un affront à l'histoire de l'Église de Christ. C'est un coup de poing au visage des milliers de martyrs dans l'histoire qui, eux, ont vécu de façon à contre-courant de leur société, de leur époque, pour plaire à Dieu, pour être saints, qui ont vécu souvent des vies simples, sans aucune autre chose que leur foi, leur famille et leur église. C'est tout ce qu'il y avait souvent. Et vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de bébelles, et des fois, on n'a pas ce qui importe. Aujourd'hui, on cherche à intégrer le monde dans l'église. Et vous savez pourquoi on cherche à faire ça? Parce que ça fonctionne. Parce que ça produit des résultats qu'on peut mettre sur une petite feuille, un petit chiffrier, puis dire, regardez, mon église est grosse. Regardez, j'ai des meilleurs programmes de jeunesse que vous. Vous savez, cette attitude me fatigue énormément. Ça crée en moi, sincèrement, une colère que je crois est saine. Parce que ces églises, par leur témoignage, nuisent au nom de Christ et à son grand œuvre qu'est l'Église. Parce que j'aime trop Dieu pour prendre son œuvre à la légère. Puis je vous partage mon cœur pour deux raisons concernant ces choses ce matin. Premièrement, parce que la Bible dit que ceux qui enseignent ont la responsabilité de défendre la vérité et de réfuter les mauvaises doctrines. Et vous savez, je considère que les mouvements d'église émergentes, entre autres, et charismatiques, sont largement coupables devant Dieu à cet égard. Et c'est ma responsabilité de vous enseigner contre ces mensonges. Parce que plusieurs églises dites évangéliques adoptent ces positions de plus en plus et embrassent cette méthode mondaine d'acceptance culturelle. On ne parle pas d'églises lointaines qui ne sont pas au Québec, aux États-Unis, là. Il y en a une tonne qui sont en train d'apparaître au Québec et ça l'influence les églises autour parce que les gens voient que ça marche puis là il y a des grosses églises qui remplissent des salles puis on se dit qu'est-ce qu'on fait de pas correct nous autres coudons. Vous savez, je considère pas ça comme un petit défaut ou une faute mineure. C'est une perversion de l'église de Dieu et je me dois pour par amour pour n'importe qui, n'importe quel croyant qui écoute ce message ce matin, de vous mettre en garde contre la jalousie avec laquelle Dieu prise son Église. Je vous encourage à ne pas vous joindre à de telles églises, à ne pas encourager ou ne pas approuver le modèle de ces églises. Je vous encourage surtout à rester fidèle au modèle apostolique que l'on voit dans la Bible, qui a été historiquement pratiqué, c'est-à-dire celui d'une Église qui est sobre, qui est organisé autour de la prédication de la parole de Dieu. Vous savez, celui qui n'approuve pas le monde par désir d'être tendance ou d'être populaire, celui qui affirme, je veux dire, excusez, soyez celui qui n'approuve pas le monde par désir d'être tendance ou par désir d'être populaire. Soyez celui qui affirme la vérité contre vents et marées, comme les apôtres l'ont fait. Soyez le pilier de la vérité, ce que l'Église est appelée à être. Vous savez, on est appelé à être une Église qui est la lumière dans le monde. et non pas une église dans laquelle on retrouve le monde. Et deuxièmement, je vous partage cette chose parce que je désire vous faire connaître au travers de mes enseignements certaines de mes convictions les plus profondes et les plus personnelles. Étant donné le cheminement dans lequel on s'engage, je juge important que vous ayez l'occasion d'entendre mes positions sur certains sujets qui sont courants dans le monde évangélique, qui sont importants à savoir. Et je vous sers cette portion du message comme une sorte d'avertissement. Vous savez, je ne serai jamais un pasteur à programme. Je ne serai pas celui qui suit des modèles pour grandir l'Église, qui organise, qui établit toutes sortes d'événements existants. Je ne suis pas comme ça. Pour moi, il n'y a rien de ces choses qui sont centrales ou qui sont importantes à l'Église. La parole de Dieu est claire. Les pasteurs sont donnés pour enseigner et prier. C'est les deux mandats qui leur sont donnés. Enseigner et prier. C'est les deux tâches qui leur sont demandées. Ce ne sont pas de divertir et de plaire. Vous savez, une citation de Charles Spurgeon qui est bien connue, elle vient de son discours qui est appelé, si vous voulez aller lire, c'est pas un long texte. Ça s'appelle « Nourrir les brebis et ou amuser les boucs ». Un bon titre, hein? Imaginez-vous, même en son temps, Charles Spurgeon, sans toute la technologie d'aujourd'hui, sans toutes les bébelles, voyait la tendance grandissante de l'Église de tomber dans le divertissement. Puis il dit dans ce discours, « Rarement Satan a proposé aux assemblées quelque chose d'aussi rusé. Il les a amenés à admettre la nécessité de présenter aux gens des distractions afin de les gagner. Le témoignage de l'Église n'a cessé de perdre de son influence. Les puritains parlaient encore droitement. On est alors devenu indifférent et l'on n'a plus ressenti tragiquement les influences mondaines qui ne tardèrent pas à être tolérées en marge des assemblées. Aujourd'hui, ils sont officialisés par cet argument. L'on peut ainsi atteindre les grandes masses. » Donc, l'argument que les gens donnent, c'est « ça marche, on peut atteindre beaucoup de gens, les gens aiment ça, ils rentrent dans notre bâtiment. » J'aime bien ce qu'il dit. « Rarement Satan a proposé aux assemblées quelque chose d'aussi rusé. » Parce que ça vient de Satan, cette idée-là qu'il faut incorporer le monde dans nos églises. Vous savez, il avait vu juste. Et le désir du monde, même parmi l'Église, n'est pas disparu aujourd'hui. Je ne serai jamais celui qui va faire de l'Église un lieu de plaisance, qui va rechercher des solutions pour que l'Église soit de plus en plus divertissante. Je crois que les chrétiens, les vrais croyants par définition, devraient chercher Dieu dans la simplicité et dans la sainteté d'un culte centré sur la vérité, et non pas sur la performance de nos méthodes et des résultats numériques qui vont suivre. Ce que je peux vous promettre, c'est d'être attaché à l'enseignement et à un culte simple, sobre, centré sur la parole de Dieu et sur la gloire de Dieu. C'est les seules choses que je peux vous promettre. Vous savez, si une douzaine de pêcheurs, pas très éduqués, ont réussi à former le noyau de ce qui est appelé l'Église apostolique, croyez-moi, ce n'est pas par la splendeur de leur divertissement qui ont conquis les foules à l'Évangile. La parole de Dieu nous le dit, c'est quoi? C'est par la simple et puissante prédication de l'Évangile. Et c'est à ça que je veux dédier ma vie. Peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les 10 commandements, le 10e commandement? Mais vous savez, je crois évident que les désirs de l'Église moderne d'incorporer le monde à leur culte et d'opérer toute cette espèce de contextualisation qu'ils appellent dans leur modèle d'Église est un refus de souffrir pour la cause de Christ. C'est un refus d'être vu comme différent du monde. C'est la fausse et incroyablement mauvaise doctrine qui présuppose que la prédication de la parole de Dieu elle seule, sans artifice, n'est pas assez pour convaincre l'homme de péché. Qu'il faut le monde, qu'il faut des méthodes, qu'il faut les attirer, qu'il faut des cafés, qu'il faut des... Vous savez, les apôtres n'en avaient pas de ça. Et il y avait beaucoup de gens qui venaient à l'Évangile. Et ça a rapport avec le 10e commandement parce que c'est aussi une convoitise de nos cœurs qui pousse les croyants dans les églises à désirer des choses du monde au sein même de l'église. On voit le monde, on voit les groupes du monde qui grossissent, on voit les églises pas croyantes comme les témoins de Jéhovah qui grossissent. Puis on dit, notre affaire, ça fonctionne pas. Alors, on oublie tout ce qui est conservateur, tout ce qui est sobre, tout ce qui est vieux. On n'en veut plus. On jette ces choses à la poubelle parce qu'ils ne fonctionnent pas. Parce que les gens aujourd'hui veulent une église qui est divertissante, qui est plaisante. Tu y vas, c'est le fun. Il y a un message de 15-20 minutes, pif-paf, des chants pendant 3 heures. C'est glorieux, c'est émotionnel, on braille. C'est ce que les gens veulent. Mais vous savez, c'est des méthodes qui sont utilisées dans le monde. Les motivateurs de foule utilisent ces méthodes-là. C'est facile. Si vous voulez ça, on peut le faire la semaine prochaine. C'est extrêmement facile. L'église va se remplir, je vous le dis. Mais est-ce qu'elle va se remplir de croyants, d'élus? Je peux pas vous le dire. Vous voyez, le 10e commandement est à la source de cette problématique-là. Le désir de l'homme de posséder ce que le monde a. C'est ça la convoitise. Le désir de l'Église d'être comme le monde, d'avoir ce que le monde a dans l'Église, c'est une forme de convoitise. La sainteté. La sainteté dans laquelle Paul liste le contrôle de nos passions fait partie de ce qui nous distingue en tant qu'Église du reste des groupes du monde. Nous sommes, comme l'expression en grec le dit, ecclésia, mis à part. Donc, je vous exhorte, que ce soit dans votre vie personnelle ou que ce soit en tant que communauté dans l'Église, à rechercher ce que Dieu désire pour vous, c'est-à-dire la sainteté. Aussi simple que ça. Et vous savez, vous allez en avoir bien en masse. Si vous gardez cette exhortation dans vos cœurs, je peux vous promettre que vous n'aurez jamais besoin de divertissement par le monde. Vous serez bien trop occupé à perfectionner votre sainteté pour la gloire de Dieu. Parce que c'est infini perfectionner sa sainteté. Tant qu'on ne sera pas mort, on peut perfectionner notre sainteté. Donc, il y a clairement de ces passions qui sont des convoitises et qui nous éloignent de la sainteté. Vous savez, jusqu'à présent, on a seulement vu des exemples de convoitises qui sont immatérielles. Donc, c'est des convoitises du cœur, des pensées, des positions, comme le désir d'acceptation du monde, le désir de faire comme le monde. Mais il y a aussi une catégorie plus évidente, qui est celle qui est vue directement dans le 10e commandement, c'est-à-dire la convoitise matérielle. Donc, la convoitise matérielle des biens matériels fait partie de la liste de quelques trucs qui est listé par Moïse, par Dieu en fait, qui est donné à Moïse, que Dieu inclut dans le 10e commandement. Puis, vous savez, certaines de ces choses sont des répétitions de d'autres commandements. Certaines sont des répétitions de pas convoiter la femme de ton voisin. C'est un peu la même chose que que l'adultère, hein, je veux dire. C'est inclus dans le commandement de l'adultère, de pas convoiter la maison, les champs, toutes ces choses-là. C'est un peu inclus dans le commandement du vol. Mais ils nous servent à reconnaître que même le désir de posséder ces choses qui ne sont pas à nous, de façon convoitée, sont un péché en soi. Donc, de convoiter la femme d'un autre, c'est un adultère. De convoiter l'auto, qui est comme l'équivalent, mettons, du cheval et du bœuf, ou la maison d'un autre, c'est de nourrir l'idée du vol. Comprenez, la convoitise matérielle, bien que plus facile à reconnaître que celle immatérielle, n'est pas plus facile à éviter. Nos yeux sont constamment bombardés des valeurs du monde en ce qui concerne la surconsommation. J'ai sûrement pas à vous expliquer comment le monde a largement embrassé la convoitise matérielle. Je vous dirais même que le monde la chérit comme étant une de ses valeurs. La convoitise matérielle est une des valeurs fondamentales du capitalisme, du monde dans lequel on vit. Le fameux rêve américain, la poursuite du bonheur, pursuit of happiness, est l'emblème de la convoitise par excellence. L'idée que renferme cette idéologie-là typiquement américaine, c'est que on peut être heureux, peu importe qui on est, on peut être heureux, réussir, être riche. On peut devenir quelqu'un qu'on n'aurait pas été dans un autre pays si on va aux États-Unis. C'était ça le rêve américain. Ici, on vous laisse la liberté de devenir quelqu'un d'important, de riche, de puissant. Évidemment, l'idée de la liberté n'est pas nécessairement mauvaise, là. Mais l'idée qui est en arrière de ça, c'est une idée de convoitise. La publicité nous dit constamment « t'as besoin de ça ». Tu veux ça. Tu devrais avoir ça. Tu mérites ça. Ton voisin a ça. Vous savez, il n'y a pas de mal à avoir des choses. De vouloir une voiture récente, d'une maison plus en ordre. Mais la convoitise, le désir incontrôlable et immodéré de telles choses le sont. C'est comme dans 1 Thessaloniciens 4 qu'on a lu plus tôt, qui nous parle des convoitises passionnées des païens. Pourquoi faut pas avoir des convoitises passionnées comme ça? Parce que c'est ce que les païens font, c'est ce que le monde fait. Donc il y a ici un aspect qui va plus loin que la simple volonté d'avoir quelque chose. On peut désirer avoir quelque chose sans que ce soit une convoitise. Mais c'est un désir passionné d'avoir, pour des raisons qui sont souvent non rationnelles et qui sont difficilement justifiables. Donc, si tu as 4 chars et tu en veux absolument un autre, il y a probablement quelque chose qui n'est pas rationnel là-dedans. Vous comprenez l'idée? Qu'est-ce que vous croyez être la raison numéro 1 de la surendettement de notre société? C'est facile, la convoitise matérielle. Le désir incontrôlé d'avoir des choses, même s'ils sont totalement inutiles. Combien de bébelles et de patentes on n'utilise jamais après qu'on les achète? C'est un peu traumatisant. Le désir d'avoir juste parce que les autres en ont. Bien évidemment, comme je viens de le mentionner, ce ne sont pas tous les désirs qui sont automatiquement péchés. Donc, on doit faire attention d'avoir cette mentalité-là. Là. C'est pas ce que ça nous dit. Là, on rentre dans la deuxième section, justement, qui est les désirs qui sont divinement approuvés. Edmund P. Clooney, un réformé, nous dit quelque chose de très, très intéressant à ce sujet, je cite. Contrairement au bouddhisme, l'enseignement de Jésus ne trouve pas de libération dans la mort du désir. Donc, une des parties du bouddhisme, un des enseignements du bouddhisme, c'est qu'il y a une libération qui est accomplie par en mettant à mort nos désirs humains. Et Jésus ne vient pas enseigner de telles choses. Je continue la citation. Le 10e commandement ne condamne pas le désir des bénédictions créées de Dieu ou même le fruit des efforts humains. Il condamne le désir d'avoir ce qui n'est pas le nôtre, d'être envieux. Fin de la citation. Et effectivement, souvent, quand les auteurs de la Bible nous parlent des réalités spirituelles, ils utilisent des mots comme rechercher, chercher, désirer. Ça nous indique que la convoitise n'est pas simplement un désir normal, mais un envie profonde et perverse de posséder. Puisque c'est possible et souhaitable, selon la parole de Dieu, de désirer les choses d'en haut, par exemple. Ça nous est dit. Psaume 119, 45. « Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. » Lamentations 3:25, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui la recherche, qui le recherche. La recherche, le désir de la volonté de Dieu, de la sainteté par exemple, comme on a vu auparavant, ne sont pas des convoitises, donc, mais ils sont quand même un désir qui nous est demandé d'avoir avec passion. D'ailleurs, pour un croyant héritier de Dieu, adopté par sa grâce, ce n'est pas de la convoitise de désirer les choses divines. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils nous appartiennent. Ils sont nôtres. Parce que Dieu nous fait co-héritiers de tout ce qui lui appartient par le salut. C'est une grande grâce. Vous savez, en fait, la règle très simple qu'on pourrait retenir pour ça, c'est que quand la nature de ce qui est désiré vient de Dieu, ce n'est pas une convoitise. Bien qu'elle soit une recherche passionnée, un désir passionné d'obtenir quelque chose, on doit être passionné d'avoir la sainteté, d'être juste, d'être bon. Ça doit être des choses qui doivent nous passionner. Et ce ne sont pas nécessairement des convoitises, parce que ce sont des choses que Dieu nous donne, qui sont divinement données. Tandis que la nature de d'autres désirs aussi passionnés avec du matériel, ou notre réputation, ou la gloire humaine, eux, mènent à la convoitise. Sinon, toute autre forme de volonté d'avoir ce qui n'est pas la nôtre, avec une passion immodérée, n'est pas sain. Vous savez, cependant, ce péché est subtil. Et plus subtil que les autres. Et beaucoup moins public que les autres. Souvent, le seul à savoir qu'on convoite, c'est Dieu et nous. On peut le cacher de même nos plus proches. C'est d'ailleurs ce qui rend ce péché si difficile à retenir pour nous-mêmes. C'est le fait qu'on a très peu de redevabilité publique. Quelqu'un peut difficilement nous arriver et dire « t'as convoité ça ». C'est pas facile à prouver, mettons. Parce que le tout se forme dans nos pensées, se forme dans nos cœurs. Faut donc faire, et je vous sens ça comme un avertissement, faire attention de ne pas avoir une attitude légaliste ou hautaine envers ceux qui gèrent pas nécessairement leur vie, leur bien de la même façon que nous, là. Pas tout désir est une convoitise. Nous ne devons pas jouer le rôle du Saint-Esprit en essayant de déduire qui convoite et qui ne convoite pas, là. Mais on peut par contre s'exhorter à rester fixé sur les choses spirituelles l'un l'autre et s'encourager. Mais n'essayons pas de jouer le rôle du Saint-Esprit. Surtout pas dans quelque chose qui est aussi personnel dans le cœur des hommes. Je pense que l'Esprit est assez efficace pour nous interpeller quand on a de la convoitise dans notre cœur. Maintenant, on passe à l'autre section plus pratique, c'est-à-dire combattre la convoitise. Maintenant qu'on a regardé un peu plus de profondeur ce que c'est la convoitise matérielle et immatérielle et des exemples de ceux-ci, il serait sage de savoir comment on peut combattre ce désir de convoitise qui fait rage dans nos membres, comme Jacques l'a dit. Et la première façon de combattre, c'est d'avoir la foi. Ça peut paraître évident. Vous savez, Thomas Watson nous offre, dans son commentaire, une première piste de réflexion sur la foi. Il dit, la souche de la convoitise, c'est le manque de confiance en la providence de Dieu. C'est intéressant, parce qu'on voit que dans son commentaire, on voit les teintes d'un homme qui a vécu avec probablement très peu, à une époque qui avait probablement beaucoup de pauvreté matérielle. La convoitise, contrairement à aujourd'hui, avait une teinte de providence. Il n'est pas faux de dire que la convoitise prend racine à partir d'un manque de foi. On manque de foi que Dieu va pourvoir, donc on convoite des choses que l'on n'a pas. Si nous ne croyons pas que Dieu pourvoit même aux besoins matériels, comme il nous dit qu'il le fait, il peut être tentant de convoiter les biens de d'autres personnes. Vous savez, cependant, à notre époque, je crois que la convoitise a plutôt une saveur, non pas de providence, mais de désir charnel. Parce que nous vivons dans un, disons-le, on vit en Amérique, même le plus pauvre ici était riche, là. Faut que vous réalisiez qu'on est tous riches. Il y a personne de vraiment pauvre en Amérique, là. Faut oublier cette idée-là, là. Il y a des gens plus pauvres, si on se compare. Mais le reste du monde, on est je pense, le 5% là, de la planète, là. Le reste des gens sont très pauvres, ont très peu de choses. Et oui, on est choyé d'un certain sens de vivre dans une telle société, mais dans l'abondance, le danger, c'est que notre convoitise ne vient pas nécessairement d'un manque de foi de providence, parce qu'on a déjà toutes les choses qu'on a besoin. Puis si on n'en a pas besoin, le gouvernement va s'en occuper de toute façon. Donc, ce n'est pas nécessairement un manque de foi dans la providence de Dieu pour nous, mais bien une insatisfaction de ce que l'on a déjà. Donc, notre saveur, notre teinte est un peu moins comme Thomas Watson, le puritain, mais nous sommes plus dans le nécessaire comme lui, là. Vous imaginez, lui, il parlait de la convoitise pour des choses qui étaient nécessaires. Nous, on parle de la convoitise pour des choses qui sont excessives, qui sont superflues. C'est fou. Moi, ça m'a sonné une alarme. Ça devrait vous sonner une alarme. Si vous comprenez l'ampleur de l'influence que le monde a sur nos vies. Dans 1 Jean 5, versets 3 à 4, ça nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, dans un sens plus général, la foi, c'est ce qui nous donne la victoire sur le monde. Et qu'est-ce que le monde? C'est la convoitise. Donc, la première étape d'avoir la victoire sur la convoitise, c'est d'avoir la foi. Parce que nous savons que personne sans la foi peut résister aux tentations de la convoitise. Le monde nous le démontre. Il n'y a personne qui n'est pas chrétien qui résiste à la convoitise. Vous savez, vous pourriez me dire, « Ouais, c'est vrai, mais tu sais, mais qu'il y a des gens qui vivent de la simplicité volontaire, puis tout ça. » Je vous dirais, c'est vrai, il y a des gens qui adoptent des styles de vie simples, même s'ils ne sont pas croyants. Et c'est à leur gloire, mais plus souvent qu'autrement, je vous dirais que c'est contre leur gré qu'ils le font, parce qu'ils sont obligés. Et si on se rappelle de ce que c'est la convoitise, on se rappelle qu'il n'y a pas uniquement la convoitise matérielle. Donc ces gens-là peuvent convoiter d'autres choses qui n'est pas nécessairement matérielle. Ce que j'essaie de dire, c'est que nul homme peut prétendre ne pas avoir de convoitise à moins de combattre par la foi. Et même pour nous, c'est difficile. Mais avec les armes de l'esprit, on peut le faire parce qu'on a la foi. Et c'est la première étape pour combattre, d'avoir la foi. Toute autre chose est superficielle. Il ne pénètre pas dans le cœur dur et dépravé de l'homme, malheureusement. Donc, l'extérieur peut avoir l'air beau, mais s'il n'y a pas la foi, il va avoir de la convoitise. La deuxième façon de combattre, qui est très liée avec tout ce qu'on a vu ce matin, c'est d'envier la sainteté. Dans 1 Pierre 1, versets 15 et 16, on lit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. » dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, il y a une seule chose que nous devrions envier et désirer ardemment, c'est la sainteté. Comme on l'a vu précédemment, la sainteté est la volonté de Dieu pour l'homme. C'est alors ce qui devrait occuper les pensées, le temps et le cœur du chrétien. Je suis conscient qu'on n'est pas des robots, puis que... On ne passe pas notre temps à lire la Bible, à prier 24 heures sur 24, qu'on a des certaines obligations humaines, mondaines aussi, qui sont correctes. Mais au travers de ces choses, on peut avoir une attitude de sainteté quand même. Faut pas avoir l'impression, faut pas avoir cette idée un peu gnostique que tout ce qui est mondain, tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique est nécessairement mauvais. C'est possible de vivre dans la sainteté. Ça revient au message que j'avais fait, mais la sainteté est possible pour nous. Il faut le croire. Si on est occupé à travailler à notre sainteté, ça va garder nos yeux centrés sur Dieu. Ce sera alors beaucoup plus facile de résister aux tentations de l'ennemi, de la convoitise quand ça va venir. Parce que ça va venir. Quand la convoitise occupe nos pensées, par contre, la sainteté ne peut pas être notre priorité. Et vice-versa. C'est des choses qui sont consumantes, comme on l'a lu. C'est pas des choses dans lesquelles on peut un petit peu de convoitise, un petit peu de sainteté. Ça marche pas comme ça. Souvent, on est comme pleinement dans la convoitise, puis on voit plus rien. On est dans la folie de notre péché, de notre chair, ou on est pleinement dans la sainteté et on garde les yeux fixés sur Dieu. Et là, on pêche, on convoite, on demande pardon et on revient à la sainteté. Et ça va être comme ça jusqu'à temps qu'on soit glorifié et qu'on ne pêche plus. Mais pour combattre la convoitise, il faut premièrement avoir la foi, puis ensuite rechercher la sainteté. Et le troisième point, et non le moindre, c'est-à-dire le contentement. Un des passages clés sur le contentement se retrouve dans 1 Timothée. On va tourner, c'est le dernier passage qu'on va lire ce matin. 1 Timothée 6, versets 6 à 12. Quelques livres en arrière de Jacques. 1 Timothée 6, versets 6 à 12. C'est en effet une grande source de gain que la piété et le contentement. Comment on fait? Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour moi, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et par laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Un beau passage. La première chose qui est à noter, c'est que le contentement n'est pas l'idée d'être pauvre. Trop souvent, on fait cette espèce d'équation-là. Être content, être contenté, c'est d'être pauvre. C'est souvent la réflexion que les gens ont. Mais c'est plutôt d'accepter le contexte dans lequel on est placé. En reconnaissant que tout ce que nous avons, dans l'abondance ou la pauvreté, ne nous appartient pas de toute façon. L'idée, c'est que le minimum doit nous suffire. Et on doit croire que Dieu prend soin, par sa providence, de tous nos besoins. Vous savez, Paul, par l'entremise de sa relation avec Timothée, nous rappelle premièrement que la piété, et on pourrait mettre sainteté là, entre parenthèses, et le contentement sont un grand gain. Un grand gain. Vous savez ce que ça veut dire un grand gain? Ça veut dire que vous pourriez passer votre vie à chercher ces deux choses-là et ce serait bon, ce serait un grand gain. Entre autres, parce qu'elle bloque la tentation de convoiter ce que notre prochain a ou ce que le monde a. Par Parce que quand on recherche la piété et le contentement, la convoitise devient beaucoup plus facile à éviter. Parce qu'on est heureux dans ce que Dieu nous donne. On accepte. Des fois, c'est des situations difficiles. Je reconnais là qu'il y a des situations dans lesquelles les gens sont placés qui sont difficiles. Mais de les accepter, de les voir comme étant des choses que Dieu place dans nos vies, ça rend la chose beaucoup plus facile. De ne pas convoiter la santé de quelqu'un, de ne pas convoiter ses biens, de ne pas convoiter sa femme, sa maison, etc. J'espère que vous êtes aussi motivés aux paroles de Paul à combattre le bon combat. Vous savez, ça doit vous motiver d'avoir une vie totalement différente de ce que le monde vous propose. On doit se motiver par ces choses-là. Ce qui m'amène à notre conclusion, l'espérance ultime. Finalement, ce matin, la raison pour laquelle on fait tous ces efforts, c'est que notre espérance n'est pas fondée sur les choses de cette vie et de ce monde. Nous avons la foi que Dieu nous réserve des couronnes de gloire pour nos efforts. Il nous promet l'abondance et la joie dans son royaume éternellement. Il nous promet qu'il sera notre Dieu à jamais. Vous savez, il n'y a rien de mal à être motivé par nos récompenses futures. J'ai souvent entendu ce genre de réflexion-là. Il n'y a absolument rien de mal à être motivé par ces choses-là. Là. Si ce serait mal, ça n'aurait pas été écrit dans la Bible comme une source de motivation pour nous. Ça doit être une source de motivation. C'est la raison pour laquelle ils nous sont donnés comme une motivation pour rechercher les choses qui ont vraiment une valeur. Une valeur divine, une valeur éternelle. Et ça doit aussi être parce qu'on aime Dieu et qu'on désire obéir à sa loi pour lui plaire. Dans 1 Jean 2, 17, on lit « Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » De plus, on sait que le monde, malgré ses attraits, parce qu'il y en a, sinon on ne convoiterait pas, reste temporaire. Les richesses et la gloire humaine, peu importe à quel point ils sont grandioses dans ce monde, ne sont que vanité. Et ils vont passer. Le salut, lui, nous est accordé selon la grâce et l'amour de Dieu, qui un jour a jeté un regard sur nous avec compassion. C'est dans ces vérités que je vous encourage à vivre. C'est dans cette espérance de cette vie à venir. On doit reconnaître que notre destinée ultime n'est pas cette vie ici. Et que Dieu désire que l'on s'abstienne de la convoitise pour fixer nos cœurs et nos yeux, non pas sur les richesses de ce monde qui n'ont pas de valeur, mais sur la richesse et la gloire que Dieu a à nous offrir. Sur les bénédictions spirituelles, sur la récompense éternelle qui nous attend, sur toutes ces choses qui sont plus précieuses que le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne périront jamais. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons reconnaître ce matin, Seigneur, que nos cœurs sont trop souvent dans la convoitise, Seigneur, trop souvent dans le désir mondain, le désir d'être comme le monde, le désir d'être comme nos voisins. Pardonne-nous, Seigneur, de consommer avec autant d'ignorance, Seigneur, ce monde. Nous voulons s'accrocher à toi. Nous voulons profiter, Seigneur, de ta création, profiter de nos efforts dans le contentement. Nous voulons être comblés, Seigneur, par toi, en toutes choses. Parce que toi seul, Seigneur, nous désires notre bien. Et ultimement, Seigneur, toi seul nous recevras dans ta gloire. Nous voulons, Seigneur, te prier que tu gardes nos cœurs ce matin en ce jour qui t'appartient. Garde nos pensées, nos familles, nos foyers, et que tu nous accompagnes tout au long de cette semaine. Par l'Esprit Saint, que nous combattions, Seigneur, ces tentations de convoiter. Amen. Est-ce qu'on a